Bienvenue sur CMM Radio.
Cette année, les élèves de l'option LCA, Langue et Culture de l'Antiquité, s'interrogent sur les Jeux Olympiques d'hier à aujourd'hui. Après une première série de podcasts sur les origines antiques des Jeux Olympiques, découvrez les réflexions des élèves de 4e autour des Jeux Olympiques modernes. Écoutez-les, EOS à audité.
Des histoires de sport, de récompenses et de triche au cœur des Jeux Olympiques. Ça vous dit 3, 2, 1, partez.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter des anecdotes, des records et le plus important, les origines du marathon. Tout commence en 490 avant Jésus-Christ, à la fin de la guerre qui opposait les Grecs et les Perses. Un jeune homme grec a voulu annoncer aux Athéniens leur victoire contre les Perses. Mais la route était longue, 40 km à parcourir pour Philippides. Épuisé et sans être préparé, il serait mort juste après avoir délivré son message. Pourquoi marathon ? Est-ce que le mot débute par un préfixe grec comme déca, penta ou octa ? Eh bien non. Le mot marathon vient du nom de la ville d'où part la course du jeune Philippides. Michel Bréal, qui a inscrit le marathon au JO, n'a pas cherché loin pour le nom. Avez-vous déjà entendu cette expression grec. Courir comme un Louis. Quel honneur d'être à l'origine d'une expression pour Spyridon Louis. C'est le tout premier champion olympique de marathon à Athènes en 1896. Pour l'anecdote, Spyridon franchit la ligne sans avoir l'air d'être fatigué. Et il ne lui faudra que 10 minutes pour récupérer. 42 km 195. C'est la distance du marathon aujourd'hui. Mais savez-vous pourquoi ? En 1896, lors de la préparation de la course, les organisateurs ont décidé de choisir une distance de 40 km, la distance exacte entre les deux villes. Mais en 1908, lors des JO de Londres, la distance a été allongée de 2 km et 195 mètres pour faire plaisir à la famille royale. Ainsi, la course s'achève devant la tribune royale du White City Stadium. Depuis, cette distance n'a jamais changé. Le record du monde olympien du marathon chez les hommes est détenu par le Kenyan Samuel Kamau Wanjiru avec un temps de 2h 6 minutes et 32 secondes lors des JO de 2008 à Pékin. Le record chez les femmes est détenu par la japonaise Takahashi Naoko avec un temps de 2h 23 minutes et 14 secondes lors des JO de 2000 en Australie. Alors qu'il peine à trouver chaussures à son pied, l'athlète éthiopien Abeba Bikilam décide finalement de courir le marathon des Jeux Olympiques de Rome pieds nus. Il remportera finalement la course en 2h 15 minutes et 16 secondes et deviendra le premier coureur d'Afrique de l'Est à décrocher l'or olympique. Et pour finir, êtes-vous au courant que le marathon des JO de Paris sera ouvert au grand public et se nommera le marathon pour tous. Des athlètes amateurs emprunteront le même parcours que le marathon olympique. La course se déroulera pendant la nuit du 10 août 2024. Un parcours inédit et original qui fera honneur au patrimoine et à l'histoire de l'Hexagone et de la région parisienne. Je laisse la parole à Emma qui va parler de récompenses pour les sportifs valeureux.
Les sportifs qui participent aux JO cherchent à remporter la victoire. Comment sont-ils récompensés ? Pendant les Jeux Olympiques modernes, c'est-à-dire depuis 1896, les trois premiers vainqueurs sont récompensés. Le premier reçoit une médaille d'or, le deuxième une médaille d'argent et le troisième et dernier du podium, une médaille de bronze. De plus, les 8 premiers athlètes obtiennent un diplôme ou certificat olympique. Ils le reçoivent en signe de reconnaissance pour leur participation. Le certificat est coloré en fonction de la place obtenue à la fin des épreuves. Le premier obtiendra le titre de champion olympique et les 3 titulaires du podium reçoivent des primes. Aujourd'hui, le montant de ces primes est de 80 000 euros pour la médaille d'or, 60 000 euros pour celle d'argent et 20 000 pour celle de bronze. Durant les Jeux Olympiques antiques, il n'y avait pas de podium parce que seul l'athlète vainqueur de l'épreuve était récompensé. Il recevait une palme et sa tête était entouré d'un ruban rouge sang. Le dernier jour, des Hélanodis, juge grec, le coiffait d'une couronne d'olivier devant le temple de Zeus. On pouvait aussi réciter des poèmes en son honneur et même ériger une statue à sa gloire. De retour dans sa cité d'origine, ses distinctions redoublaient. Le sportif victorieux était vénéré par les habitants. Au départ, les récompenses n'étaient pas matérielles mais honorifiques. Mais cela n'a pas duré et les récompenses monétaires ont modifié l'esprit des jeux. Les cités ont donc accordé à leurs champions par exemple des logements ou de la nourriture gratuite à vie. Les Grecs ont commencé alors à faire la course aux meilleurs athlètes. C'était le début du sport professionnel. Voilà quelques informations sur les récompenses attribuées aux sportifs lors des Jeux Olympiques d'hier et aujourd'hui.
Certains participants aux Jeux Olympiques sont tellement déterminés à gagner qu'ils en oublient l'esprit des JO. Voici quelques histoires de tricheurs. Voici ce que nous apprend Jean-Yves Boriot, professeur à l'Université de Nantes au sujet de la triche à Olympie dans l'Antiquité. Ce n'est pas avec de l'argent mais avec des jambes rapides et encore robustes qu'on remporte la victoire à Olympie. Telle était l'inscription qu'on pouvait lire sur le socle de l'une des statues édifiées dans l'Altis, l'enceinte sacrée d'Olympie avec l'argent de l'amende infligée en 388 avant Jésus-Christ au boxeur Opolos de Thessalie. Pour s'assurer la victoire, il en avait effet cru devoir acheter la bonne volonté de 3 de ses adversaires qui, moyennant une somme non négligeable, avaient accepté de se coucher. Opolos n'avait pas corrompu n'importe qui et la postérité a conservé le nom de ses compétiteurs, tous vainqueurs aux Jeux Olympiques précédents. Mais le tricheur, une fois parvenu à ses fins, prit le risque de refuser de s'acquitter de sa dette. Logiquement, les corrompus le dénoncèrent et logiquement aussi, le Sénat des Jeux les condamna tous les 4 à verser une amende avec laquelle on élèverait 6 de ses statuts. statue, les Alès, témoignent des fautes des athlètes qui abondaient sur le site le long de l'allée menant au stade. 50 ans plus tard, un intérieur du nom de Calipos, inscrit au pantalon, acheta aussi ses adversaires. Il se fit prendre. La ville d'Athènes fut condamnée à une amende, mais elle refusa de s'en acquitter. Elle envoya même son meilleur orateur, Hyperédès, plaider sa cause pour obtenir au moins une suspension de l'amende. Il échoua pourtant, et la pitié à Delphes menaça de ne plus rendre d'oracle à Athènes si la ville ne s'exécutait pas. Cette dernière ne pouvait se permettre ce luxe dangereux et finit par régler ce qu'elle devait. Voilà deux authentiques tricheries dont eut vent Pausanias, illustre voyageur du 2e siècle après Jésus-Christ. Lors de son passage à Olympie, on trichait en effet au jeu pour s'assurer le plus grand honneur qui fut dans toute la Grèce, celui de champion olympique. C'est que la victoire aux Jeux olympiques n'avait justement pas de prix. Le prestige qu'elle apportait était incommensurable puisque c'était le dieu en personne, croyait-on, qui avait soutenu le vainqueur. Voici maintenant deux histoires de tricheurs marquant des Jeux olympiques modernes. Boris Onichenko était un athlète soviétique connu, médaillé et admiré. Il était considéré comme le meilleur pentathlète de l'URSS, qui jouait les premiers rôles à chaque Jeux olympiques. Que s'est-il passé la journée du 19 juillet 1976 à Montréal? Ce juillet 1976, les spectateurs canadiens ont la chance d'assister à la plus grande tricherie de l'histoire du sport. Outre tous les produits dopants aujourd'hui fréquemment utilisés par de nombreux athlètes, Boris Onichenko va s'illustrer par une technique de tricherie alliant inventivité et technologie. Ce jour-là se déroulent les épreuves d'escrime de l'épreuve par équipe de pentathlon moderne. Le soviétique doit affronter un britannique. Le britannique esquive le coup de fleuret du soviétique, mais la table de marque des jurys signale que le britannique est touché. Les anglais se révoltent. Les arbitres perplexes confisquent l'arme du soviétique. L'arme contenait un petit interrupteur électronique pouvant allumer la table de marque des arbitres sans que le fleuret n'ait touché. Boris Onichenko actionnait l'interrupteur pour expédier les différents matchs à toute vitesse. La supercherie est alors démasquée et la délégation soviétique est directement disqualifiée des épreuves olympiques. Autre jeu, autre histoire. Lors des Jeux de Los Angeles 1984, la portoricaine Madeline de Jésus se blesse lors du concours du saut en longueur. Afin de ne pas priver le relais 4x400m portoricain de sa présence, elle demande à sa sœur jumelle, Margaret, présente au jeu, mais non qualifiée, de courir à sa place et le relais passe en finale. Seulement, l'entraîneur qui a découvert la supercherie, furieux, retire son équipe. Espérons que les JO 2024 ne soient pas marqués par des histoires de triche retentissantes.
C'était la radio des ados.